Bonjour mes amis, c'est Clotilde Seille et c'est toujours l'émission Les Voix de Service. Pouf, il y a un casque qui est tombé, mais ça fait rien, il ne pourra pas descendre plus bas alors que Gisèle Lalande est rentrée dans le studio. Bonjour ma petite Gisèle, ça va bien?
Oui, ça va.
Si c'est une première.
Je peux réussir à installer mes écouteurs, ça va aller beaucoup mieux. Bon,
voilà. Alors, tout de suite, non pas aujourd'hui, dans la prochaine demi-heure, je vais d'abord regarder ce qu'on peut lire dans la presse, quelques bribes de quelques articles, chroniques, édito. Ensuite, il y a Gisèle Lalande. Gisèle, est-ce qu'on peut déjà avoir un petit teaser là, de quoi il sera question aujourd'hui?
Écoutez, c'était un sujet presque incontournable quand on parle de presse internationale, c'est la crise des réfugiés.
La crise des réfugiés, d'accord. Et puis, à l'international aussi, mais moi, à la toute fin de cette demi-heure, je vous amène à Cuba, je vous amène également à New York où on compte de plus en plus d'itinérants et il sera peut-être question, encore une fois, de la crise des réfugiés, mais cette fois-ci en Angleterre, à moins que notre amie Gisèle n'en ait déjà parlé. Restez avec nous. Alors, à la une de la presse ce matin, on nous présente en photo M. Wellens, pour la prononciation. Il s'agit d'un cycliste qui a remporté le Grand Prix cycliste de Montréal, présenté hier autour du Mont-Royal. Élection fédérale 2015, métropole cherche ministre. Sans député conservateur depuis 7 ans, Montréal n'est pas représenté au Conseil des ministres à Ottawa. C'est donc difficile pour la ville d'obtenir sa juste part du gâteau, estime d'anciens ministres de Montréal. Et ça donne lieu à une chronique ce matin de François Cardinal. L'encre invisible du SPVM viole-t-elle les droits des manifestants? La Cour d'appel se prononcera sur l'utilisation de cette technique de marquage. On nous annonce également plusieurs chroniques, dont certaines sur lesquelles je vais revenir dans quelques secondes, si je ne me perds pas trop dans mes pages ici-bas. Patrick Lagacé qui revient sur ces hommes qui trompent leurs femmes, qui sont peut-être beaucoup plus nombreux qu'on ne le pense. Et Yves Boisvert, l'art de l'absolution, va revenir sur ce groupe d'étudiants. Vous vous souvenez peut-être, il y a quelques années, qui avaient fomenté un attentat dans le métro et qui ont donc été absous. Sinon, il y a un cahier auto, puisque nous sommes lundi, on parle des Jaguars et de la marque Jaguar qui sort ses griffes. On nous annonce la chronique de Nathalie Petrovski, qui est à Toronto et qui nous parle de vérité, de cinéma et de Dan Rather. Et puis, crise des migrants. Cameron est sommé d'en faire plus, nous dit-on à la une de la presse. Choqué par la timide proposition de leur premier ministre d'accueillir 20 000 réfugiés en 5 ans, des milliers de Londoniens ont pris la rue au cours de la fin de semaine. Alors, avant de passer à un premier papier qu'il faut vraiment que je retrouve, mais que je viens de retrouver ici, où il sera question justement de ceux qui trompent leurs femmes. Et ça, c'est Patrick Lagacé qui signe ça ce matin dans la presse. Le petit clin d'œil, comme je le fais tous les jours, de Stéphane Laporte, le clin d'œil qui dit « Si on pouvait voter pour le prochain capitaine du CH, le taux de participation serait plus grand qu'aux élections fédérales. » Alors Patrick Lagacé, qui a rencontré un homme qui se fait appeler Sébastien, on imagine très rapidement que ce n'est pas son vrai prénom. Et Sébastien voulait lui parler de sa chronique sur Ashley Madison, celle où il disait, Lagacé, que le piratage de ce site pour personnes cherchant des aventures extra-conjugales annonçait quelque chose comme la fin de la vie privée. Et justement, Sébastien voulait lui parler d'un truc très privé à Lagacé, c'est que Sébastien trompe sa femme. Sa vie est pourtant parfaite, c'est lui qui le dit. Il a des enfants adorables, aussi beaux qu'intelligents. Il a un job super payant qui le stimule. Il a une femme qui l'a aidé à toucher ce bonheur-là, avec qui il aime s'endormir, avec qui il veut vieillir. Sauf que le sexe avec elle a toujours été très ordinaire. Mais sinon, tout le reste est parfait. Alors, ce qu'il a fait, c'est que finalement, oui, il a fini par sauter la clôture, il a fini par aller voir d'autres femmes et il a ouvert son compte Ashley Madison devant d'ailleurs l'agacé. Il lui a montré les conversations qu'il avait avec ses correspondantes. Il en voit certaines et puis d'autres non, ça ne va pas plus loin que les courriels. Ce qui n'est pas inintéressant, dit l'agacé, c'est le portrait que trace Sébastien de ces femmes avec qui il échange et qu'il rencontre parfois. En couple, ils vivent un désir en berne, flanqué de types pour qui tout est plus intéressant qu'elle, où la communication se résume à parler des enfants et à se faire rappeler de ne pas oublier d'acheter de la margarine en passant devant le IGA le soir. Sébastien ne se reconnaît pas dans ce désert conjugal. Pour lui, donc, tout est parfait, encore une fois, sauf le sexe. Et là, il dit l'agacé, oui, je sais qu'il y a plein de gens qui hurlent à ce stade de la chronique. Je vous entends dire que Sébastien est un écœurant. J'entends plus de voix de filles que de gars aussi. Mais permettez que je répète, dit l'agacé, 32 millions de personnes étaient membres d'Ashley Madison. 32 millions de courailleux. Pardon? Vous dites qu'il y avait de faux comptes dans l'eau? Sans doute. Ajoutons alors les autres entremetteurs numériques facilitant l'infidélité et Facebook, et c'est combien de millions de personnes qui veulent courailler, vous pensez? Il dit, ici aux États-Unis, l'essentiel de la couverture médiatique du piratage d'Ashley Madison s'est concentré sur le côté technique de l'affaire, en gloussant un peu parce que c'est du cul, parce que c'est du tabou, parce que c'est donc drôle de découvrir que 8 flics de la SQ avaient des comptes sur Ashley Madison, sans oublier des milliers de fonctionnaires. Mais à peu près rien sur le fond. Pourquoi tant de gens sont-ils prêts à risquer leur couple, leur famille, leur bonheur pour goûter furtivement une autre bouche, pour toucher une autre paire de fesses? Aux États-Unis, le chroniqueur Dan Savage parle depuis des années de l'impossibilité relative de la monogamie totale et intégrale. Savage est convaincu que la monogamie est un arrangement qui peut fonctionner pour des couples, mais pas pour tous les couples. Ce qu'on dit, c'est que si on est en amour avec quelqu'un, on ne voudra pas baiser avec quelqu'un d'autre. Et si on rencontre quelqu'un qui nous attire, on se dit qu'il faut laisser notre chum, notre blonde, car si on les aimait, on ne serait pas attiré par quelqu'un d'autre. Ce qui est complètement cinglé ou inhumain, plutôt, dit ce monsieur Savage. Pour Savage, la clé dans un couple n'est pas la monogamie comme fin en soi. La clé, c'est ce que les Anglais appellent « commitment », ce mot mal traduit par « engagement » et qu'on peut résumer par « être là », »,« être vraiment là ». Alors il conclut, quand vous aurez fini de hurler, je vous invite à consulter quelques références ci-après sur la question de l'amour, de la fidélité et de la monogamie. Tout ce qu'on y raconte, c'est la partie submergée d'un iceberg dont Ashley Madison n'est que la pointe visible. Mais cela conclut Monsieur l'agacé, Patrick, on s'en reparle. Et puis donc Yves Boisvert qui signe un papier ce matin, sa chronique « L'art de l'absolution » où il revient sur ces étudiants qui avaient simulé un acte terroriste. Vendredi, ils ont bénéficié d'une absolution inconditionnelle. Il nous rappelle comment ça s'était passé. Plusieurs lignes de métro avaient été arrêtées, certaines même pendant plusieurs heures. Et finalement, on avait arrêté ces étudiants-là. On les avait accusés de méfaits, ça va de soi. Mais la poursuite a décidé de mettre la gomme. On les a aussi accusés en vertu de dispositions antiterroristes du code criminel d'avoir incité à faire craindre un acte terrorisme. C'est un peu gros, je l'ai dit à ce moment, mais rappelez-vous, le climat tendu est parfois vaguement parano de l'époque. Alors, 3 ans plus tard, il s'avoue coupable et d'un commun accord avec la poursuite, il demande une absolution inconditionnelle. La juge Manon Ouimet a entériné l'entente tout en admettant sa réticence naturelle devant les crimes politiques. En pareilles circonstances, le juge s'écarte rarement des suggestions communes. J'en entends qui se scandalisent de cette décision, dit Yves Boisvert. Ce n'est pas mon cas. Certains ont subi quelques jours d'emprisonnement. Ils sont tous soumis à des conditions de mise en liberté depuis 3 ans. Ils sont aux études. Si vraiment ils reconnaissaient leur tort, je ne vois rien de déraisonnable à les laisser commencer leur vie adulte sans casier. Le procureur de la poursuite et le juge seront plus volontiers enclins à l'absolution pour cet étudiant à la maîtrise qui rêve de devenir prof et veut pouvoir voyager de congrès en congrès, ou cet étudiant en droit qui veut être admis au barreau, ou ce policier de 51 ans qui a importé 1500 comprimés et 45 fioles de stéroïdes pour consommation personnelle et qui risque de perdre son emploi. La justice ressemble rarement autant à la religion que dans le rituel d'absolution, confession de la faute, expression de repentir sincère, promesse de ne pas recommencer, et dans sa robe, sourcils froncés, le clerc lave le pénitent de ses péchés. Ego te absolvo. Vite fait, avant de laisser la place à Gisèle Lalande qui est venue se joindre à moi pour parler d'actualité internationale et plus précisément de la crise des réfugiés, la caricature quand même de Chapelot qui vraiment est absolument... en tout cas, PKP se rapproche des syndicats et pour illustrer ceci, il nous présente PKP comme une grosse poule, mais qui ressemble vaguement à un coq. Ça veut dire, tu sais pas trop s'il est dans le clan des poules ou dans le clan des coqs. Ce qui est sûr, c'est qu'il est beaucoup plus gros. Alors donc, ce serait plutôt coq. Et puis là, il y a une des poules en cortège devant lui qui lui dit, parce que la PKP leur dit, je suis des vôtres. Puis l'autre qui dit, ouais, ben, on veut bien te croire, mais alors pond-nous un œuf. Et j'accueille Gisèle Lalande. Bonjour Gisèle.
Bonjour Clotilde.
Je suis très très touchée que vous ayez accepté de venir tous les lundis pour nous parler de politique internationale, parce que vous vous y connaissiez un peu,
oui.
Mettons que vous avez travaillé pas mal. Je rappelle que vous êtes une ancienne journaliste de Radio-Canada, maintenant à la retraite, et que c'est donc vraiment un honneur que vous nous faites de venir comme
merci,
ça.
Merci Clotilde. Pour moi, c'est un plaisir. C'est rentrer dans mes vieilles pantoufles confortables.
J'adore. Vous nous le disiez en présentation, comment ne pas encore une fois évoquer la crise des réfugiés? Moi, j'ai du mal à les appeler des migrants, pour ma part.
Oui, parce que c'est frappant, hein, vous le dites, je l'avais noté, dans la presse française, on utilise le terme « migrant » et c'est à peu près le seul endroit.
Ouais.
CNN, entre autres, pas reconnu pour être particulièrement de gauche, a décidé à partir de la semaine dernière, je crois qu'ils ont annoncé leur décision, de n'employer à l'avenir que le terme « refugees », réfugiés.
Réfugiés.
Mais les Français parlent de crise des migrants, c'est très étrange.
C'est étrange parce que, par exemple, moi, j'ai choisi mon pays. Bon, alors voilà, j'ai choisi de vivre ici, je me considère comme une migrante.
Mais là, quand on parle des Syriens,
non,
des Afghans, des...
Ils n'ont pas choisi de partir.
Non.
Eux, ils voudraient vivre à Alep encore.
Oui,
là,
ce sont vraiment des réfugiés. C'est étonnant.
Qu'avez-vous à nous
alors,
partager
écoutez,
sur le sujet?
Ce qu'il y a de frappant, c'est que dans la presse européenne, depuis 2-3 semaines, et surtout la semaine dernière, il y a vraiment des dizaines et des dizaines d'articles sur le sujet. Il y en a beaucoup, beaucoup moins dans la presse nord-américaine. Et quand moi, j'ai feuilleté pour le plaisir, été voir les premières pages, il y a différents sites où on peut voir les premières pages des journaux partout dans le monde. Et on voit que c'est un sujet qui concerne avant tout l'Europe, parce qu'ailleurs, on en parle très, très peu. Alors, j'ai dû retenir que certains des articles, il y en avait trop. Et mon premier article que j'ai retenu, c'est un peu un article sur le point de départ, puisque c'est un article en provenance de Damas, qui est la capitale de la Syrie. C'est un journaliste du Guardian. Le Guardian, c'est un journal qu'on pourrait considérer un peu à gauche, un journal britannique, un très bon journal. Alors, il est à Damas. Il est évidemment dans la partie, la ville est coupée en deux. Il est dans la partie de la ville qu'on considère la plus sécuritaire. Je le mets entre très, très gros guillemets, c'est-à-dire la partie de la ville qui est contrôlée par les forces gouvernementales de Bachar el-Assad et non pas dans la partie qui est contrôlée par l'État islamiste. Alors, ce qu'il dit, ce qu'il raconte un peu, c'est que c'est une étrange vie à Damas. Où il y a le quotidien le plus normal qui côtoie la pire violence avec, et il donne deux exemples. Il parle d'un bar qui s'appelle le Z-Bar, qui est sur le toit de l'hôtel Omayyades, où on continue à organiser des soirées, à prendre des réservations. La vie continue, entre guillemets, normale. Et d'un autre côté, à Damas, il existe une page Facebook. Le nom de la page Facebook, c'est « Journal des attaques d'obus mortels ». C'est une façon d'essayer de recenser les morts dans la ville, parce que c'est loin d'être évident. Le journaliste, évidemment, est allé sur la page Facebook et à la dernière entrée, il s'agit d'une famille de 6 personnes, des gens qui étaient déjà des déplacés, qui avaient quitté leur ville attaquée pour venir s'installer dans un endroit plus sécuritaire. Donc, déjà des déplacés qui ont été tués pendant qu'ils pique-niquaient, pendant qu'ils mangeaient dans un parc du centre de la ville. Et dans son article, il raconte une anecdote aussi qui donne... froid dans le dos. Il écrit « Les Damascènes admettent que leur cœur s'est endurci. » Et là, on ouvre les guillemets. « Je marchais sur la rue quand un obus est tombé tout près. Un homme est tombé. Je ne savais pas s'il avait été blessé ou tué. » Ça, c'est une femme d'affaires qui parle. « Alors, je l'ai simplement enjambé et j'ai continué mon chemin.
Oh, » ouais.
La violence est devenue tellement ordinaire.
Ouf. Quelle réalité.
Alors, ça devient facile de comprendre que tout le monde veut partir. Évidemment, je donnais simplement l'exemple de Damas, mais la situation est pareille partout en Syrie. Et depuis la publication de la photo très connue maintenant de ce petit enfant sur la plage de Bodrum, les quotidiens européens ont changé un peu leur approche. Avant, c'était beaucoup des articles où on parlait de chiffres, de données statistiques très globales. Et là, tout le monde s'est mis à vouloir s'intéresser de plus près à chacun de ces réfugiés. Donc, voir la réalité, finalement, de ces gens qui viennent qui quittent cette région du monde. Alors, ce qui est frappant de voir, c'est que cette semaine, à peu près tous les quotidiens ont envoyé des journalistes pour suivre, justement, le chemin des migrants, suivre les migrants. Dans Le Monde, quotidien français, évidemment, qu'on pourrait situer au centre, assez neutre, on a fait cette semaine une couverture assez spéciale. On a envoyé sur le terrain, je dirais, au moins 15 journalistes, probablement un peu plus, qui avaient été envoyés là, donc, dans tous les endroits importants par où passent les réfugiés. Et on pouvait les suivre cette semaine, heure par heure, sur Twitter. Ce qui est frappant, c'est que le hashtag pour pouvoir suivre sur Twitter, c'était « jour de migrants » et non pas « jour de réfugiés ». Quand on disait tout à l'heure que la presse française est un peu bizarre sur la terminologie qu'on emploie pour ces gens.
Alors, vous en avez retenu quelques-uns, j'imagine.
Oui, et on va débuter en Turquie, à Bodrum. Ben, Bodrum, c'est un peu le Hogenquit de la Turquie. Oui, c'est un lieu, c'est très connu, c'est des touristes partout d'Europe, c'est vraiment synonyme de vacances, de plages, mais... Maintenant, ce nom a changé beaucoup de connotation puisque c'est sur la plage de Bodrum qu'on a trouvé le petit Aliyun.
Famille, d'ailleurs.
Oui. Alors, on raconte donc à Bodrum l'histoire d'un des réfugiés, Ahmed. C'est un Syrien, un horticulteur de 35 ans. Il est là avec sa femme, ses deux enfants qui ont 1 et 3 ans. Quand on le rencontre, il est installé sur des cartons en dessous de la glissoire du parc pour se mettre à l'abri un peu de la pluie. Il a payé plus de 8 000 $ pour 7 personnes. Il y a une tante, un oncle qui sont avec eux. Et ils attendent le signal du passeur pour traverser vers Kos, qui est à 5 kilomètres, évidemment traversé sur des bateaux de fortune. Journaliste écrit ce soir-là, le signal n'est pas venu. Ahmed attend toujours avec sa famille et il dit au journaliste, « Je n'ai pas peur de traverser, mourir en Syrie ou mourir ici. » Au final, quelle différence. Et ce qu'on raconte aussi dans l'article, et ça c'est un peu troublant, on dit que sur cette plage de Bodrum, bon, la municipalité a fait mettre une petite couronne noire pour marquer l'endroit où le petit Aliyun a été retrouvé sur la plage, mais que la vie continue. Il écrit tous les jours, les touristes sont nombreux à venir barboter dans la mer, mais il signale que quand même, face à cette indifférence, il y a eu quelques jours plus tôt une manifestation, 1000 riverains ont décidé de venir secouer l'apathie de leurs congénères en organisant, via Facebook évidemment, une manifestation sur la plage. « L'humanité s'est échouée sur les rives de Bodrum », ont-ils scandé entre les touristes en maillot et les ballons de plage.
Bon, et alors quand on arrive par exemple en Grèce, sur l'île de Lesbos, que c'est un point d'arrivée énorme.
C'est ça,
il y a
Kos et Lesbos, qui sont deux îles assez près de la Turquie. Alors là, on est dans le petit village d'Eftalou, où il y a des bénévoles. On raconte qu'il y a là deux jeunes femmes, c'est qui qui appartiennent à aucune organisation. Là. Ce sont vraiment des citoyens simplement bénévoles okay. qui sont là sur la plage à agiter, on voit une photo d'ailleurs dans le journal, des vestes fluorescentes oui. pour aider les bateaux à réussir à rejoindre la côte.
Elles agissent comme phares, quoi.
Un peu, voilà, exactement. Effectivement, bon, elles les entendent au loin et un peu plus tard, quelques minutes plus tard, il y a une cinquantaine de Syriens qui arrivent. Ils sont détrempés, mais ils sont heureux, soulagés d'être enfin arrivés sur le sol européen. Lesbos et surtout Eftalou, le petit village, c'est une île de 50 000 habitants. C'est tout petit, donc, qui a vu passer au cours des derniers mois des milliers de réfugiés, 22 000 qui sont arrivés simplement cette semaine. Et ça continue. Aujourd'hui, on peut supposer qu'il y a 3 000, 4 000 qui vont débarquer encore aujourd'hui. On explique que s'il n'y avait pas ces bénévoles, c'est vraiment des bénévoles individuels, il n'y aurait rien parce que la Grèce, on le sait, on en a beaucoup parlé au cours des derniers mois, n'a pas d'argent, elle est au bord de la faillite, donc elle est incapable de faire face à cette marée humaine. Bon, donc ces réfugiés arrivent là, ils doivent ensuite traverser l'île pour se rendre au port de Mytilène. C'est là qu'il y a un traversier pour aller vers le continent, vers la Grèce continentale. C'est 70 km de marche après cette traversée en bateau. Bon, les bénévoles réussissent à trouver quelques autobus pour les enfants, les personnes malades, les plus faibles, mais les autres doivent marcher le 70 km. Et on leur dit courage, au milieu, à peu près à 40 km, vous allez trouver un autre poste avec des bénévoles pour vous aider à continuer votre chemin.
Heureusement qu'il y a toujours une action civique comme ça dans ces...
Oui.
Et puis, c'est ça. Alors, donc là, il faut qu'ils marchent.
Oui, parce que là, quand ils sont arrivés en Grèce, évidemment, on est loin de l'Allemagne, hein, quand
non,
on est
en
Grèce.
C'est ça.
Alors, bon, dans le monde, on continuait le voyage. Mm-hmm. Il y avait ensuite un autre journaliste qui était au point de passage en Macédoine, où les autorités, je cite, attendent 23 000 personnes dans les trois prochains jours. Gavchelidia, qui est le point d'entrée, la ville d'entrée du pays. Mmh. Au moment où le journaliste était là, il pleuvait des trombes d'eau, il faisait un froid épouvantable. On voit des photos de ces réfugiés qui ont vraiment l'air d'être détrempés, absolument malheureux. Il faisait 18 degrés. Puis ensuite, évidemment, ce sera la Serbie, la Hongrie, l'Autriche. Mmh. Et au bout, évidemment, l'espoir d'entrer en Allemagne.
Et puis d'ailleurs en Allemagne, où on disait hein, ce matin dans les journaux qu'en ce moment, Mme Merkel est en train de peut-être, entre guillemets, payer pour cette ouverture. Tout d'un coup, là, il y a beaucoup de gens là, qui sont en train de se rebeller.
Oui, on a fermé les portes, d'ailleurs.
C'est ça, oui,
on a
pareil.
Fermé les portes. Oui, on a fermé les portes. On a suspendu les accords Schengen pour quelques jours. Il y a une réunion importante aujourd'hui à Bruxelles.
C'est
et c'est
ça.
Là que se décideront certaines
choses.
Mais pas de solution en vue, donc le flot ne s'arrêtera sûrement pas.
Gisèle Lalande, c'est un plaisir de vous entendre. Un plaisir de vous entendre. J'aimerais mieux vous entendre un jour, peut-être sur un sujet qui sera un petit peu plus réjouissant,
mais
ce moment, c'est inévitable. Honnêtement, j'aurais été très, très surprise. Mais quand je dis que c'est un plaisir, c'est de vous voir éplucher tout ça pour nous et de nous aider à comprendre aussi tout ça. Merci beaucoup, Gisèle. J'ai hâte à lundi prochain.
Je vous en prie. Je vais essayer peut-être de regarder l'heure brave Donald Trump.
Oui,
c'est pas le nôtre, c'est le leur.
Ce sera, oui, puis on va
parce qu'il y a un débat, c'est ça, il y a un débat cette semaine, ça risque d'être intéressant.
Merci infiniment.
C'est rien du tout,
Clotilde.
Je vais
continuer avec d'autres nouvelles internationales. Alors, je vais poursuivre à l'international avec un ou deux sujets glanés dans les quotidiens du jour, alors que je vais dire au revoir encore une fois à Gisèle et en la remerciant et à la semaine prochaine. Merci beaucoup.
Je vous laisse une photo pour vous inspirer.
Oh mon Dieu, oui, une photo de quelques migrants, entre autres un type qui porte un gilet de sauvetage, mais on voit surtout qu'il porte un enfant alors qu'il est complètement immergé. Je veux dire, ils n'ont tous les deux, lui et son petit bébé, que la tête qui sorte de l'eau. Merci encore Gisèle et à la semaine prochaine. Alors, pour vous, dans le domaine international, je voudrais aller notamment vous parler, parce que c'est le sujet d'un éditorial dans le Devoir, que va-t-il se passer finalement à Cuba avec ses prisons, c'est de Guy Taillefer. Ça s'intitule « Cuba dégèle avec barreaux ». À quelques jours de la visite du pape François à Cuba, en fin de semaine prochaine, les autorités cubaines ont annoncé vendredi dernier l'amnistie de 3522 prisonniers. Le geste est frappant, mais il n'est pas sans précédent. Près de 3000 détenus avaient été élargis avant la visite de Benoît XVI en 2012. Environ 300 l'avaient été un mois après celle de Jean-Paul II en 1998. L'initiative est loin au demeurant de signaler une quelconque ouverture politique parmi les gagnants de cette nouvelle amnistie, notait la dépêche de l'AFP, figure des détenus âgés de plus de 60 ans ou de moins de 20 ans, sans antécédents pénaux, des maladies chroniques, des femmes et ceux dont la liberté conditionnelle allait prendre fin l'année prochaine. On nous dit qu'il se trouve que Washington voudra sans doute se servir du site d'une autre prison, celle de Guantanamo, où loge une base navale américaine depuis 1903, pour amener le régime cubain à faire des concessions. Cette base, dont la Havane réclame la rétrocession à grands cris, va sûrement représenter un enjeu de grande valeur dans les négociations entre les deux pays. Encore que les experts ne pensent pas que cette rétrocession se produira avant 10 ou même 20 ans. L'armée américaine continue de résister à la fermeture de la base dont elle se sert notamment pour mener des opérations anti-drogue dans les Caraïbes. On quitte l'île de Cuba, on s'en va plus près de chez nous, à New York, et on voit une photo, alors qu'à l'intersection de on voit un itinérant qui est couché sur un trottoir. C'est une photo que malheureusement nous avons aussi, nous, ici à Montréal, assez régulièrement sous les yeux, et j'imagine dans pas mal de grandes villes au pays. Richard Etu qui écrit à l'intersection de la 14e rue et de Broadway, à Manhattan, Maricela Pena s'arrête devant un sans-abri au visage crasseux et sort son téléphone portable. Assis sur le trottoir, flanqué de deux chiens, l'homme d'une vingtaine d'années dort, la tête appuyée sur un sac à dos. À ses pieds, un écriteau appelant à la générosité des passants, même un sou, aide, côtoie, un gobelet renversé. Ces jours-ci, plusieurs New-Yorkais font le même constat, même s'ils ne s'arrêtent pas tous prendre des photos. Les rues sont de plus en plus achalandées de mendiants aux portes des édifices les plus fréquentés. Et alors là, il se pose la question, Richard Etu, et si New York était en voie de renouer avec la triste époque où la crise des sans-abri semblait hors de contrôle. Les données n'ont rien de rassurant. En juin dernier, près de 59 000 personnes dormaient dans les refuges de sans-abri de New York, comparativement à 42 000 en décembre 2011, selon une coalition, la coalition For the Homeless. À ce nombre, il faut ajouter entre 3 000 et 4 000 personnes qui dorment dans la rue, les parcs ou le métro, selon le chef de police de New York, William Bratton. Ouf, pas facile dans les rues de New York.
J'étais tranquille, j'étais peinard, accoudé au flipper, le type est entré dans le bar, a commandé un jambon beurre, puis il s'est approché de moi, puis m'a regardé comme ça, t'as des bottes mon pote, elle me botte. Je parie que c'est les Santiago, viens faire un tour dans terrain vague, je vais t'apprendre un jeu rigolo, à grands coups de chaîne de vélo, je te fais tes bottes à la baston, moi j'y ai dit, laisse béton. M'a filé une beigne, j'ai filé une torgnole, m'a filé une châtaigne, je lui ai filé mes grolles. J'étais tranquille, j'étais peinard, accoudé au comptoir, le type est entré dans le bar, a commandé un café noir, puis il m'a tapé sur l'épaule et m'a regardé d'un air drôle. T'as un blouson mecton, il est pas bidon. Moi je me les gèle sur mon scooter, avec ça je serai un vrai rocker. Viens faire un tour dans la ruelle, je te montrerai mon opinel et je te chouraverai ton blouson. Moi j'y ai dit, laisse béton. Il m'a filé une beigne, j'ai filé un marron, m'a filé une châtaigne, j'ai filé mon blouson. J'étais tranquille, j'étais peinard, je réparais ma mobilette. Le type a surgi sur le boulevard, sur sa grosse moto super chouette. S'est arrêté le long du trottoir et m'a regardé d'un air bête. Tu as le même blue jean que James Dean, tu arrêtes ta frime. Je parie que c'est un vrai Lévi-Strauss. Il est carrément pas craignos. Viens faire un tour derrière l'église, histoire que je te dévalise à grands coups de ceinturon. Moi j'y ai dit laisse béton. Il m'a filé une beigne, j'ai filé une mandale, m'a filé une châtaigne, j'ai filé mon futal. La morale de cette pauvre histoire, c'est quand t'es tranquille et peinard, faut pas trop traîner dans les bars, à moins d'être fringué en gros star. Quand à la fin d'une chanson, tu te retrouves à poil sans tes bottes, faut avoir de l'imagination pour trouver une chute rigolote.
Ben, c'est pas tout à fait le même thème qu'à l'habitude, mais c'est la même voix qui va vous accompagner pour vous faire un résumé de l'actualité sportive de la journée. C'est Kevin Breton qui est en relève pour Clotilde Seille pour les prochaines minutes. Djokovic a triomphé hier à New York. Il a défait Roger Federer en 4 manches en finale des internationaux des États-Unis afin de mettre la main sur le 10e titre majeur de sa carrière. Le favori a battu Federer 6-4, 5-7, 6-4 et 6-4 pour remporter un 3e tournoi du Grand Chelem dans la même saison pour la 2e fois de sa carrière. Il a aussi eu le dessus sur Federer en finale à Wimbledon de la même manière, en échappant la 2e manche pour mériter les 2 suivantes. Il a dit « J'ai énormément de respect pour Roger Federer et pour ce que son jeu représente à mes yeux et pour tous les autres joueurs. Son niveau de jeu vous force toujours à offrir le meilleur et c'est nécessaire de mon côté, au plus grand plaisir des admirateurs évidemment qui ont pu admirer ces deux très bons joueurs s'affronter hier. » Le Serbe montrait une fiche de 1-4 en carrière en finale des internationaux des États-Unis. Federer, deuxième tête de série, a toujours 17 victoires majeures à son palmarès et n'a pas réussi l'exploit depuis le tournoi de Wimbledon en 2012. Après un départ difficile, le Suisse a élevé son jeu d'un cran et a appliqué une pression constante sur son rival. Djokovic a cependant été un peu meilleur dans les moments importants, sauvant 19 des 23 balles de bris, dont 3 lors du dernier jeu, tout en convertissant 6 de ses 13 occasions. Être de retour en finale, c'est ce que je voulais, a dit Federer, qui a disputé la finale à Flushing Meadows en 2009. Affronter un incroyable champion comme Novak est tout un défi. Excusez-moi, ça m'a fait rire. C'est toujours un nom de ville qui me fait bien rire, Flushing Meadows. Le début du match a été retardé de plus de 3 heures en raison de la pluie et quand il a commencé, la foule était totalement derrière Federer. Les encouragements pour son adversaire n'ont cependant pas semblé déranger Djokovic, qui a filé vers la victoire. Ce dernier a chuté dangereusement première manche, mais il s'en est bien remis. L'allure du match a changé dramatiquement en fin de 3e manche lorsque Federer détenait 2 balles de bris pour prendre les devants 5-3 dans la manche et une avance de 2-1 dans la rencontre. Sur la première, Federer a envoyé un coup droit dans le filet. Sur la deuxième, Djokovic a mis fin à un échange de 15 coups en punissant le faible revers de Federer avec un coup droit gagnant. Quelques instants plus tard, Djokovic a obtenu le bris pour porter la marque à 5-4 quand Federer a raté un coup droit puis un revers. Djokovic a pointé sa tempe droite en regardant son entraîneur Boris Becker, qui a approuvé le tout. Djokovic a ensuite servi pour le set, sauvant 2 balles de bris au passage et pris l'avance sur une autre erreur de Federer. Prenant l'avantage alors que Federer semblait affaibli, Djokovic a enregistré un autre bris pour prendre les devants 2-0 en 4e manche. Il a gagné 8 jeux sur 10 et avait la chance de servir pour le titre à 5-2. Federer est cependant sorti de sa torpeur pour briser le service du Serbe et le forcer à essayer de nouveau. Djokovic n'a pas flanché et a pointé son cœur après que le dernier coup de Federer eut atterri derrière la ligne de fond. C'est un article de la presse canadienne. Et maintenant du tennis, on passe au hockey. Un article de Jean-François Chaumont dans le Journal de Montréal d'aujourd'hui. Alors, on dit que Martin Lapointe du Canadien dresse un bilan très positif du tournoi des recrues qui s'est conclu hier avec une défaite contre les sénateurs, contre les bébés sénateurs. Au premier jour du camp, Michael McCarron avait résumé en 2 petites phrases la pertinence de participer à un tournoi des recrues pour le Canadien. Il a dit « Je me répétais depuis 2 ans, mais je trouvais ça difficile de préconiser mon style de jeu quand je me retrouvais contre mes amis pour des matchs intra-équipe. Il a ensuite mentionné « C'est bon de jouer du hockey compétitif ici à London, où avait lieu le tournoi. Je peux respecter mon style et j'adore ça. » Mais Caron, on le comprendra, le choix de premier tour du Canadien en 2013 a utilisé ses épaules contre les espoirs des Pingouins, des Leafs et des Sénateurs. Il a aussi sorti ses points. Face aux Leafs, il a engagé un combat contre le défenseur Cameron Lizotte peut-être. Mais Caron avait en tête de venger son coéquipier Charles Hudon, qui s'était fait renverser quelques présences plus tôt sur une percutante mise en échec de Lizotte. Une telle scène n'aurait jamais eu lieu dans un match typique entre les Blancs et les Rouges, d'expliquer Jean-François Chaumont. Martin Lapointe, le directeur du développement des joueurs pour le tricolore, a corroboré les dires de McCarron. Citation, « C'est super le fun comme expérience », a-t-il noté, avant la dernière rencontre contre les Sénateurs au Budweiser Gardens. « Quand j'étais recruteur avec les Blackhawks de Chicago, je me souviens que je regardais des matchs à Traverse City. Il y a aussi un tournoi des recrues là-bas. Les jeunes ont la chance de se retrouver sur la glace contre des espoirs d'autres formations. C'est mieux que de la compétition à l'interne. Il y a plus d'intensité quand tu joues contre une autre équipe. » Les joueurs sont plus réticents à frapper leurs propres coéquipiers, c'est bien différent que des rencontres intra-équipe. Le CH n'avait pas participé à un tournoi de genre depuis 2006. Pourquoi une aussi longue absence? Demande M. Chaumont. Je sais qu'on cherchait à participer à un tournoi de la sorte depuis quelque temps déjà, a-t-il expliqué. Les Blackhawks ont choisi de ne pas revenir ici à London. Il y avait une place qui s'est libérée. Plusieurs équipes font des tournois comme ça. Il y en a un dans l'Ouest à Pennington, en plus de Traverse City et London. Lapointe a également offert des fleurs à Jérémy Grégoire, qui fera ses débuts à St. John's dans la Ligue américaine cette saison. Son caractère est incroyable, a-t-il affirmé. La raison pour laquelle il s'est battu dans le premier match, c'est qu'il était en maudit contre lui-même, il me l'a dit. Tant qu'à bouder sur le banc, je suis aussi bien de faire quelque chose sur la glace. C'est le genre de joueur que Grégoire, et tu ne peux pas lui enlever ça. Au dernier match contre les Sénateurs, Grégoire a été impliqué dans un autre combat, cette fois contre Vincent Dunn, un choix de 5e tour des Sens. Et maintenant, en terminant, un texte qui est signé par Alain Bergeron dans le Journal de Montréal. Bien, c'est au sujet du prix cycliste qui avait lieu hier, évidemment, à Montréal. C'est le Belge Tim Wellens, ou Wellens. Là, je me suis informé à ma collègue si on devait prononcer à la Wallonie ou à la Flandre pour ce qui est de ce Belge. Donc, Tim Wellens, ou Wellens, a remporté un supplice de 5 heures marqué par la pluie et une centaine d'abandons. Alors qu'il ne restait que 100 mètres avant d'entrer à la banque, Wellens s'est jeté dans la roue du Britannique Adam Yates, le seul avec qui il négociait l'issue depuis la dernière ascension de la voie Camillien-Houde, pour finalement le coiffer après un supplice de 5 heures. Il a dit « Je sentais que j'étais le plus fort quand on roulait à deux. Le sprint est toujours quelque chose de spécial parce qu'il faut savoir y aller au bon moment. Mais non, je n'étais pas sûr d'être le meilleur au sprint », a avoué le coureur de 24 ans, avant de convenir que la course a été dur aujourd'hui. Est-ce que Clotilde sait si je dois prononcer Tim Wellens ou Tim Wellens?
Je me suis posé la même question tout à l'heure.
Est-ce que ça dépend s'il vient de la Wallonie ou de la Flandre?
Oui, c'est ça. C'est parce que je pense... Oui, c'est ça. Si les Wallons, ils disent pas la Wallonie, ils disent la Wallonie. Donc, mais si les Flamands, ce serait...
Et le prénom ne laisse pas vraiment indiquer s'il est Flamand.
Rappelez-moi, Tim. Ouais, d'accord.
Je pense qu'il n'y a pas plus ambigu de Tim pour un Belge.
Non,
mais bref, peu importe s'il est Wallon ou Flamand, il est un très bon cycliste.
Il a gagné, en tout cas. Avez-vous évoqué la victoire de M. Djokovic aussi?
Absolument, en entrée de jeu.
En entrée de jeu, hein?
On a aussi fait un petit tour du camp des recrues qui s'est terminé hier pour les Canadiens.
Ah, OK, d'accord. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été là. Mais vraiment,
moi, j'en reviens plus tard parce que je fais le bulletin du handicap en fin d'émission.
Oui, à midi moins le quart, donc d'ici 30-35 minutes.
Exact.
Merci d'être venu, Kevin. Voyez-vous, quand j'ai imaginé ce magazine-là, j'imaginais C'est ça, des gens qui se croisent, des gens qui rentrent, des gens qui sortent. Et bien, c'est exactement ce qui vient de se passer. L'ami Kevin Breton est sorti, il va revenir d'ici une trentaine de minutes. Et à sa place, c'est Marianne Paquette qui est là. Bonjour Marianne.
Bonjour Clotilde.
Marianne, animatrice, bien sûr, si par hasard vous l'ignoriez, franchement, mais sur quelle île déserte vivez-vous pour ignorer que Marianne Paquette est notre animatrice phare, notamment de l'émission C'est bon pour la santé. Et elle va venir nous partager un papier aujourd'hui, qui sera aussi en rapport avec l'émission?
Tout à fait, en rapport avec une entrevue que j'effectuerai jeudi prochain.
Jeudi qui vient, là.
Oui, voilà.
Rappelez-nous l'heure.
14h.
À 14h.
Oui, voilà. C'est un texte toujours dans la presse plus. L'enfance est fait pour jouer. Ça s'intitule comme ça, assez inspirant déjà. Ça fait sourire comme jeu. Marie Lambert-Chan, une collaboration spéciale qui... vise vraiment à rappeler l'importance du jeu chez l'enfant et notamment du jeu libre. C'est vraiment un sujet assez important. On en parle beaucoup, les spécialistes en parlent beaucoup en ce moment, Clotilde, de cette importance-là. Et pourtant, ben, ça nous semble d'entrée de jeu plutôt...
Normal,
habituel. Pourtant, les spécialistes de l'enfance sont plutôt catégoriques. Les jeunes ont de moins en moins de temps et d'espace pour jouer. Ils sont coincés entre l'école, les devoirs et les activités parascolaires. Et quand ils jouent, ils le font sous la supervision d'un adulte pour éviter des blessures, des chicanes, une collision avec une voiture, une agression. Leurs jeux sont souvent motivés par un objectif précis, comme faire de l'exercice, apprendre l'alphabet ou améliorer leur habileté mathématique. Il y a Karl Honoré, journaliste et auteur du Manifeste pour une enfance heureuse, qui dit « Sous l'impulsion de notre société de performance, le jeu s'est métamorphosé. Nous sommes obsédés par les objectifs, les cibles, les résultats. Quand on est incapable de mesurer une chose ou une activité, elle perd de sa valeur et c'est ce qui est arrivé avec le jeu. » Et pourtant, c'est grâce au jeu libre, une activité spontanée, sans règles préétablies, exécutées pour le plaisir et non dirigées par les adultes, que les enfants découvrent les leçons de vie les plus importantes.
Ah oui.
Et ça, encore là, tous les psychologues, les spécialistes en ce moment, bien sûr ceux qui s'intéressent au développement de l'enfant, s'entendent pour ça. Donc, le jeu libre, les enfants font plein d'apprentissage. Ils peuvent apprendre à résoudre des problèmes, à prendre en charge leur propre vie, à se faire des amis, à se familiariser avec la différence, adopter le point de vue de l'autre, être plus créatif, apprivoiser les peurs. C'est vaste. Développer des aptitudes, établir leurs limites, explorer différents intérêts.
Ne serait-ce que la communication aussi en société. Quand on construisait des cabanes dans les arbres, quand on était môme.
Et qu'on devait négocier parce que l'ami voulait ça comme ça.
Nous,
on voulait différemment.
C'est ça.
Et d'ailleurs, Peter Gray, qui est un psychologue américain, dit qu'il est convaincu que l'appauvrissement du jeu libre explique en partie l'augmentation de l'anxiété et du suicide chez les adolescents, le déclin de leur capacité empathique, vraiment l'augmentation du narcissisme aussi, et même la multiplication des actes d'intimidation. Et Clotilde, question, quel est le pire ennemi du jeu libre?
Certainement la télévision, l'ordinateur, non?
L'adulte.
Ah! Elle est bien bonne, celle-là. Je viens de me faire avoir... Mais oui, mais
l'adulte,
mais oui.
Parce que leur penchant à diriger le jeu ou à montrer la bonne façon de jouer ruinera en tout ou en partie le plaisir des enfants qui, naturellement, savent comment jouer.
Mais oui.
Mon experte de jeudi prochain, Nicole de Grandmont, a également été citée dans cet article. Elle dit, elle, que le problème se situe dans la judiciarisation de l'éducation. Bien sûr, les parents et les enfants ne veulent pas que les petits se blessent et pour ça, ils ne leur laissent pas de liberté parce qu'ils ne veulent pas qu'ils se blessent, qu'ils aient l'air maltraités.
Oui, c'est ça,
elle dit, on doit toutefois être plus souple dans notre approche. Les adultes trouvent normal que les enfants tombent quand ils commencent à marcher, mais refusent qu'ils tombent psychologiquement dans le reste de leur apprentissage. Ce n'est pas normal. Et je vais terminer ici. jouer librement en toute sécurité n'est pas impossible. Il suffit d'un peu d'imagination. Les parents pourraient demander à ce que le gymnase de l'école locale soit ouvert gratuitement aux enfants du quartier ou que la municipalité engage des surveillants dans les parcs. Ainsi rassurés, ils ne se sentiraient pas obligés d'accompagner leurs enfants. Ils leur offriraient le plus beau cadeau qui soit, c'est-à-dire la liberté de décider par eux-mêmes, de résoudre leurs problèmes, de devenir un petit peu plus autonomes. En un mot, de jouer à être un adulte.
Mais c'est excellent parce que c'est vrai que ce sont des choses qu'on nous rappelle pas assez, ça. Mais par contre, je vais ouvrir une petite parenthèse, puis je sais pas si vous serez d'accord avec moi, Mathieu aussi, qui est toujours là fidèle dans sa régie, et vous. Mais vous savez, quand on était petite, il y a quand même quelques années, ma sœur et moi, même en Europe, de toute façon, on aurait pu être ici, ça aurait été pareil, j'ai même pas besoin de préciser ça, mais on disait qu'on avait constamment le nez dans les livres.
Mm.
On disait, regardez, elles sortent jamais, elles ont constamment le nez dans les bouquins. Bon, c'est vrai qu'on avait un petit côté comme ça. Là, bon, j'aimais déjà beaucoup la lecture. Et c'est vrai que je pouvais rester dans la bibliothèque verte, parce que vous avez connu ça aussi. On avait la bibliothèque rose, la bibliothèque verte.
Non.
Ah, ça c'était des séries de livres, mais qui nous mettaient vraiment, qui nous donnaient envie toujours d'en apprendre plus. Et c'était écrit un petit peu plus gros que les livres normaux, mais il n'y avait plus d'images. Donc, c'était le meilleur moyen de passer entre le livre à images et le livre très sérieux pour les adultes.
L'entre-deux, voilà.
Voilà, mais là, c'était déjà des histoires et des séries, bon, puis des choses parfois vraiment qui portaient sur la guerre ou sur des choses comme ça, en tout cas, bon. Et toujours est-il que, c'est quand j'entends, par exemple, là, des gens nous dire « Ah, il est tout le temps sur son ordinateur, ah, ils ne sortent plus, les enfants, mais... » Moi, il y a 50 ans, j'entendais « Ah, elle a toujours le nez dans ses livres. » Oui. Mais...
Ben, peut-être plus ça change, plus c'est pareil. Ouais. Mais en même temps, moi, je ne me rappelle pas de ma mère qui surveille mes jeux, qui dicte les règles de mon jeu. « Va jouer dans ta chambre, va jouer dehors. » Quand je jouais avec mes amis, elle n'avait pas le nez là. Elle faisait autre chose, elle en profitait, j'imagine, pour appeler une copine ou faire la cuisine ou quoi que ce soit. Et maintenant, c'est vrai que l'on surveille beaucoup les enfants. Pourquoi on le fait? Oui, on ne veut pas qu'ils se blessent, on veut éviter les chicanes, mais je me dis, je parle à l'adulte que je suis devenue. Pourquoi une chicane entre enfants, ça serait un problème? Parce qu'en tant qu'adulte, on en a aussi. Et se cogner sur le coin d'une table et faire un dégât, ben, on va apprendre à ramasser et tout ça. Mm. Pourquoi on veut tant rendre nos enfants comme un bibelot de porcelaine? Moi-même, qui n'ai pas d'enfant, j'ai réfléchi. Je n'ai pas de réponse, mais il y a peut-être une petite réflexion à y avoir.
Absolument, absolument. Et puis, on pourra en parler très longtemps parce que je pense qu'on fait la même chose avec les adultes aussi. On veut tellement plus qu'il y ait d'accidents qui arrivent qu'on est dans la surprotection. Enfin, bon, bref, on pourra en parler longtemps. Mais il faut que j'aille en région, chère Marianne, parce qu'il y a aussi un petit peu d'actualité en région ce matin, notamment l'enthousiasme au Saguenay pour les Nordiques. Je vous parle de cela dans quelques secondes. Alors, en région, au revoir, Marianne. Et, j'ai encore oublié la petite note finale. Je lisais dans Le Soleil ce matin que c'est l'enthousiasme total au Saguenay pour les Nordiques. Et Camille B. Vincent écrit que le Centre Vidéotron deviendra réellement l'amphithéâtre de l'Est du Québec, comme l'a souvent souligné Régis Labeaume, lorsqu'une équipe de la Ligue nationale de hockey, la LNH, s'y installera. Et c'est ce que croit le maire de Saguenay, Jean Tremblay. Présent à Québec hier soir pour assister au match entre les Remparts et les Saguenayens, M. Tremblay a témoigné de l'engouement que suscitait l'ouverture de l'amphithéâtre à l'autre bout de la 175. Les citoyens en parlent beaucoup. Ils parlent surtout de la venue d'une équipe de la LNH, précise-t-il. Selon lui, l'expression « l'amphithéâtre de l'Est du Québec » utilisée par Régis Labeaume pour décrire le centre Vidéotron prendra tout son sens si, et seulement si, une équipe de la Ligue nationale s'y installe. S'il n'y a pas d'équipe, ils, les Saguenayens, ne se déplaceront pas, croit-il. Il prévoit qu'en cas d'un retour des Nordiques à Québec, 90% des déplacements de Saguenay vers l'amphithéâtre se feraient pour le hockey. « J'aime bien quand les citoyens dépensent l'argent chez nous », admet M. Tremblay, « mais on est très content de savoir qu'il va possiblement y avoir une équipe de la Ligue nationale. Et si c'est le cas, c'est sûr qu'il va y avoir des autobus à chaque fois en provenance de Saguenay », prédit-il, comme dans le temps des Nordiques. M. Labeaume rappelait le mois dernier qu'à cette époque, 35% de l'assistance venait de l'Est du Québec. Le maire de Rimouski, Éric Forest, espère lui aussi un retour d'une équipe de la LNH à Québec, mais ne croit pas que les Nordiques soient essentiels pour justifier la présence du nouvel amphithéâtre dans la capitale nationale. Tout le monde espère le retour des Nordiques, mais le succès du centre Vidéotron n'en dépend pas, pense-t-il. Et puis, peut-être une bonne nouvelle pour les gens de Beauport, dans la région de Québec. Ils seraient peut-être proches de la baignade, enfin, j'ai envie de dire. Parce qu'un rapport d'activité de Gestev suggère qu'en 2011, la baignade était imminente à la baie de Beauport. Et là, un nouvel arrivage, un fichage pour la baignade et la qualité de l'eau est en élaboration avec le service de l'environnement de la ville de Québec. L'installation de cet affichage se ferait pour l'ouverture de la prochaine saison, peut-on lire sans plus d'explications dans le rapport obtenu en vertu de la loi fédérale sur l'accès à l'information. La ville de Québec achevait alors la construction de bassins de rétention pour éviter les déversements d'égouts dans la rivière Saint-Charles et le fleuve lors de forte pluie. Il fut un temps où cette intervention était considérée comme un préalable à la baignade. Je sais que la ville aimerait bien ça, le port de Québec aussi, que la baignade, la baie de Beauport soit accessible à la baignade. Ça fait partie des choses que je sais qu'ils veulent faire, a déclaré au Soleil Daniel Robitaille, directeur général de la baie de Beauport à l'été 2011. Lui-même était un ardent promoteur de la baignade. Confiant comme jamais, il se disait attendre seulement le signal du service de l'environnement de la ville. Or, rien de tout cela ne s'est concrétisé. En 2015, la baignade est toujours interdite. Mais, patience, il se pourrait bien que dès 2016, on puisse se baigner dans la baie de Beauport. C'est sûr que ça devait faire pitié cette année parce que quand on voit la chaleur qu'on a eue, j'imagine, c'était la même chaleur dans la région de Québec ou même plus au nord que celle qu'on a eue ici à Montréal. J'imagine que les gens auraient peut-être bien aimé pouvoir piquer une petite tête dans le Saint-Laurent. Hein? Mathieu, est-ce qu'on se baignait dans le Saint-Laurent quand on était jeune?
Ben, moi, oui. J'ai 38 ans et je me suis baigné dans le fleuve, oui. De l'île d'Orléans.
Ah oui, ouais, de l'île d'Orléans. Ouais. Quoi, du côté de Sainte-Famille?
Saint-Jean. Saint-Jean. Du côté de la voie navigable.
Ah oui?
Oui.
Ah oui, bon, en effet.
On se rinçait là, par la suite.
Oui. Oui, mais de toute façon,
Oui, c'est ça. Je me suis baigné toute mon enfance.
Mais moi, ce qui me ferait plus peur, c'est le froid, quoi, parce que c'est quand même pas chaud, quoi.
Oui, mais...
Oui, mais quand on est môme, c'est vrai.
Et voilà.
Quand on
est
môme...
On avait les lèvres bleues, puis là,
c'est c'est ça, oui, c'est vrai. Puis là, il y a les parents qui nous recouvraient avec des grosses serviettes chaudes, là. Et puis les chocolats chauds, puis... Parce que nous, c'était pas dans le Saint-Laurent, c'était dans la Manche. Mais la Manche a toujours été dans la frette, mes amis.
Et tu vois, nos parents ne nous surveillaient pas.
Mais non, c'est sûr. Mais oui, que nous avions avec Marianne. Bon, alors, ils sont fous de Lego. Ça, c'est vraiment génial et épatant. Vous savez, les Lego, oui, oui, les jeux, eh bien, ils sont partout, ces gens-là dont on nous parle. C'est Alexandre Faye dans la Tribune qui nous en parle. Ils sont partout dans les magasins de jouets, dans les bacs des jeunes enfants. Mais saviez-vous que les blocs Lego étaient originalement construits en bois? Ben non, j'ignorais ça. Eh bien, c'est le genre d'anecdotes historiques qui ont fait de la famille Cusson-Goulet des passionnés de l'univers Lego au 23e Salon des collectionneurs passionnés de l'Estrie. Cette famille cherbrouquoise étale un nombre impressionnant de réalisations en blocs Lego, des vaisseaux aux temples asiatiques en passant par une figurine géante. Danick Cusson avait 4 ans. Lorsqu'il a commencé à se passionner pour ce passe-temps, eh bien, 5 ans plus tard, il maîtrise son sujet sur le bout de ses doigts et il a même entraîné ses parents dans son enthousiasme. Ces derniers sont devenus des collectionneurs à leur tour, mais aussi des érudits de l'histoire de cette compagnie danoise qui s'est frayé un chemin dans la culture populaire nord-américaine, une brique colorée à la fois. On voulait raconter l'histoire de Lego. La plupart des gens ignorent que ça a commencé par des jouets en bois et que c'est en raison de la guerre et de l'interdiction d'user de ce matériel que le fondateur a utilisé une mouleuse et du plastique pour faire les blocs, explique la mère de Danick, Charlène Goulet, avec la même passion que son fils. Il faut dire que si les vraies maisons pouvaient être construites en blocs Lego, celle des Cusson-Goulet le serait sans doute. Chez eux, la chambre de Danick est peinturée aux couleurs exactes des briques. Le traditionnel village sous le sapin de Noël est fabriqué uniquement de Lego. Et un mur entier est consacré à des bacs remplis de pièces libres. Ils en possèdent au-dessus de 50 000, répertoriés dans un classeur XL. « Je peux dire exactement combien nous avons de pièces plates », explique Madame Goulet. Cet engouement a poussé Denis Cusson, le père de Danick, à amorcer sa recherche de pièces de collection, comme certains des premiers blocs créés au Danemark, avant même l'implantation nord-américaine de la compagnie. Aujourd'hui, on a des contacts dans les usines de Lego de partout dans le monde, souligne Madame Goulet. On a par exemple un présentoir de la compagnie qui nous est interdit de revendre parce que ça n'a jamais été mis sur le marché. Il faut que j'aille rencontrer ces jeunes. Moi, quand j'étais petite, là, j'étais passionnée par les Lego. Vous savez pourquoi j'ai arrêté?
Non.
Parce que ça coûte trop cher. Avez-vous vu le prix de ça maintenant? Ouch! C'est le générique de la période culturelle qui commence maintenant et on va commencer ça tout de suite dans Le Devoir avec le Festival des films de Toronto et deux films qui ont été bien reçus dans leurs créneaux respectifs, deux films québécois, Endorphine et Ville-Marie. Odile Tremblay qui dit qu'on entend l'accent québécois dans les salles, les rues et les corridors du TIFF, se retournant pour voir qui parle. Il faut dire que deux premières mondiales de films québécois avaient lieu à Toronto en cette fin de semaine, Endorphine d'André Turpin et Ville-Marie de Guy Hédouin. Bien reçus dans leurs créneaux respectifs, ces films au soulagement des deux cinéastes nerveux. J'ai peur de Toronto, le côté tapis rouge, tout ça, avouait André Turpin qui se félicitait de voir Endorphine projeté dans la section Vanguard pour public averti. Il n'y avait pas eu de visionnement test, expliquait de son côté Guy Hédouin, et on ne savait pas trop à quoi s'attendre, mais les gens ont réagi comme on le souhaitait. André Turpin, grand directeur photo, hein, c'est à lui notamment qu'on doit la photographie sur le film Incendie, Momie, etc., n'avait pas réalisé de long métrage depuis Un crabe dans la tête en 2001. Le voici donc, 14 ans plus tard, dans le maelstrom d'une proposition radicale, cérébrale, glacée et fascinante, apparemment d'une grande beauté formelle aux impressionnants cadrages, tout attirail propre à décourager le grand public de s'y frotter. En entrevue, André Turpin reconnaît à son film des références d'abord scientifiques, en particulier les travaux d'Einstein sur la théorie de la relativité. Il a dit « Je m'intéressais à la vraie nature du temps qui n'est pas linéaire, malgré ce qu'on en perçoit. Le film est une sculpture de temps autour d'histoires banales où les scènes reviennent, tournent en rond sous l'obsession d'une culpabilité. » Le rêve y est aussi valable que le réel. Et puis, dans un tout autre registre, écrit Odile Tremblay, Ville-Marie, de Guy Hédouin, était lancée dans le très très beau Winter Garden Theatre in absentia de sa star, mais oui, en l'absence de la star Monica Bellucci, retenue en Europe de l'Est sur un tournage de Kusturica. Mais Pascal Bussière, Alyosha Schneider, Patrick Yvon étaient sur scène pour répondre aux questions du public aux côtés du cinéaste. Ville-Marie reprend le personnage de Marie, incarné par Pascal Bussière dans Marécage, le précédent long-métrage d'Edouin au TIFF également, mais après la Mostra de Venise. Ici, Marie a repris son métier d'infirmière à Montréal. Le film intercale des destins croisés autour d'un hôpital. Certaines scènes très belles, dont un dialogue sur un banc de parc entre les personnages de Pascal Bussière et de Monica Bellucci, s'inscrivent dans une œuvre qui laisse néanmoins une impression d'incomplétude. L'esthétisation de l'image, dit Odile Tremblay, sert la représentation de la ville mais nuit aux émotions. Après un début très fort, la tension dramatique ne s'instaure vraiment qu'en seconde partie. Comme dans le film de Turpin, les personnages portent en eux des traumatismes et chaque fois, chacun trouvera sa rédemption à travers un second choc salvateur. J'ai beaucoup voyagé avec mon film Marécage et finir sur un troupeau de vaches mortes était difficile à porter. J'avais envie de fins plus lumineuses, précise Hédouin. Et Pascal Bussière, comme toujours, elle est juste. Elle est aussi l'âme du film. Excellent aussi Louis Champagne et Patrick Yvon en ambulancier au dialogue réaliste. Alyosha Schneider, ici fils gay d'une diva, Bellucci, qui l'a trop délaissée, maintient cette distance qui sert d'écran protecteur aux jeunes gens. C'est toujours agréable de savoir que deux films québécois ont été bien reçus au TIFF, à Toronto donc, et bien c'est ce qui s'est passé. Au TIFF encore, les disparus de Charlie Hebdo revivent dans un documentaire Charb, Cabu ou Tinius devant la caméra ou raconté par leurs amis. C'est un documentaire qui s'intitule « L'humour à mort » qui a été projeté au Festival de Toronto et qui revient forcément sur les attentats de janvier et qui rend hommage en les faisant revivre aux dessinateurs de Charlie Hebdo assassinés. Charb, à un moment donné, qui lance directement face à la caméra, qui lance ces mots. On a le droit de ne pas trouver drôle ou de trouver énervant un dessin, un propos, une parole. Mais on peut répondre par un dessin, un propos, une parole. On n'est pas obligé de déclarer la guerre et d'éliminer physiquement son détracteur, a déclaré Charb à ce moment-là. Et en cas de pépin, disait-il encore, je sais que des gens sont capables de se mobiliser pour la liberté d'expression. Ces propos qui trouvent leur résonance aujourd'hui ont été prononcés il y a 8 ans par l'ex-directeur de Charlie Hebdo, qui, faut-il vous le rappeler, a été tué le 7 janvier dans cette attaque qui a coûté la vie à 12 personnes, dont 5 de ses dessinateurs. Le documentariste Daniel Lecomte avait longuement filmé les dessinateurs en 2007 pour son documentaire « C'est dur d'être aimé par des cons », sorti lors du procès intenté à Charlie Hebdo pour avoir reproduit les caricatures de Mahomet. Il a dit, Daniel Lecomte, qu'il avait envie de faire un film hommage, que pour lui c'était très important de montrer la perte, parce que ces caricaturistes, c'est tout un patrimoine. Le choix du réalisateur était rétrospectivement pour ceux qui n'avaient pas eu l'occasion de les aimer pour ce qu'ils faisaient, d'avoir l'opportunité de les apprécier en les retrouvant dans un film documentaire qui bien évidemment est dédié aux victimes de Charlie Hebdo. L'humour à mort, entre parenthèses « Je suis Charlie », démarre le 11 janvier 2015 avec les images des manifestations qui ont vu des millions de personnes, on s'en souvient, descendre dans la rue à Paris et dans le monde entier en réaction aux attentats djihadistes en France début janvier. Je ne voulais pas commencer par le drame, mais par la résistance le 11 janvier et traiter tout le reste en miroir, explique Daniel Lecomte. Il ne nous est pas précisé quand ce film arrivera sur nos écrans, grands ou petits, mais j'imagine que ça ne saurait tarder. Je vous rappelle le titre de ce documentaire, « L'humour à mort », signé Daniel Lecomte et présenté au Festival de films de Toronto. Un peu de théâtre dans la presse, d'abord avec Karl Béchard, ce comique discret nous dit Jean Siag, qui, Dieu sait s'il a une brillante carrière, qui s'échelonne sur près de 40 ans. Karl Béchard, qui est sûrement, pourtant, l'un des acteurs comiques les plus méconnus du Québec. Eh bien, cette semaine, on aura peut-être l'occasion de le connaître mieux. Espérons que les médias en parleront plus. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait la presse avec ce papier-là. Alors qu'on nous dit que Karl Béchard va reprendre son rôle du docteur Gustave Morisset dans la comédie de boulevard « Monsieur Chasse » de Georges Feydeau. Ceux qui l'ont vu dans le rôle de Mère Ubu ou dans « L'Oulipo Show » s'en souviennent encore, c'est sûr. Vous avez peut-être aussi entendu sa voix. Il a entre autres doublé les voix de Rowan Atkinson, comment il s'appelle, le Mr. Bean. Merci beaucoup, Mathieu. Alors, j'aime ça quand t'es présent, est-ce que je dis comme ça. Il a aussi doublé Bill Murray et Robert Downey Jr. aussi. Le fait est que depuis près de 40 ans, Karl Béchard combine habilement paroles et gestes dans des comédies épiques. J'ai personnellement un souvenir avec Karl Béchard dans une soirée de cabaret où Karl Béchard passait juste avant moi. Il avait fait un tel tabac qu'arrivé derrière, ça avait vraiment été extrêmement difficile. Karl Béchard, le talentueux Karl Béchard, devrais-je dire. Quelques nouvelles aussi brèves, nouvelles culturelles pour la semaine à venir. J'aurais dû dire pour la semaine en cours et pas la semaine en venir. Il y a notamment une photo d'Evelyne de la Chenelière qui signe et joue un superbe texte qui s'appelle « Septembre ». Sobrement mais efficacement mis en scène par Daniel Brière, c'est déjà un incontournable de la rentrée au sujet de la maternité et de l'enfance. Cœur sensible, ne surtout pas s'abstenir. Dit Mario Cloutier de La Presse, c'est à l'Espace Libre au 1945 rue Follum. En art visuel, Stéphanie Morissette, sensible aux questions écologiques, l'artiste cherbrookois Stéphanie Morissette présente jusqu'au 26 septembre l'installation immersive « L'inquiète forêt ». Ce sont, pour vous donner une idée, des sculptures en papier d'animaux et de végétaux qui créent un décor vraiment inquiétant. Ce sont des sculptures en papier qui sont noires, uniquement faites de gris et de noir, et qui sont présentées sur des murs totalement blancs avec un jeu de lumière assez impressionnant. Et ce décor inquiétant évoque bien sûr l'incapacité pour l'homme à exploiter proprement les ressources naturelles et à respecter l'environnement. Au cinéma, cette semaine, il faut guetter à l'affiche, il y a « Je suis à toi » avec dans le rôle principal Monia Chokri, qui va probablement augmenter la curiosité des cinéphiles québécois pour ce film qui se penche sur un triangle non amoureux. Et c'est tant mieux. C'est le deuxième film du réalisateur belge David Lambert qui pose un regard lucide et sans concession sur le commerce du sexe dans les relations interpersonnelles, mais avec beaucoup de tendresse pour ses personnages originaux, écrivait Éric Moreau du journal Le Soleil. Dans quelques secondes, des sujets divers, une opinion aussi, c'est à venir. alors que je suis en train désespérément d'essayer de retrouver un article que je voulais à tout prix vous lire ce matin sur le... Moi, c'est le genre de nouvelles qui me rendent triste. Sur le démantèlement d'une ruelle verte, j'avais mis ça de côté pour vous, mais je vais le retrouver, mesdames et messieurs, parce que je ne renonce pas, mais quoique... bonjour, mon petit Kevin.
Je l'ai vu dans la presse ce matin.
C'est ça, mais je le cherche parce que c'est vraiment lamentable. Bon, j'avais mis accepté peut-être dans l'actualité, mais c'est ça. On parle du. Mais sinon, je vais vous trouver autre chose parce que j'ai encore plein de sujets pour vous, mais c'est vraiment lamentable. Effectivement, c'est un démantèlement. Eh ben, je ne le vois pas. C'est comme si c'était tout d'un coup. Je pense qu'ils m'ont floché ce papier-là et c'est pas plus grave que ça. Je vous le disais, j'ai autre chose dont on n'a pas encore parlé aujourd'hui. C'est le retour de Guy Turcotte hein, sur le banc des accusés. Le choix du jury en vue du second procès de Guy Turcotte, ça commence ce matin au palais de justice de Saint-Jérôme. Et vu la nature et la grande médiatisation de cette affaire, 1650 candidats jurés ont été convoqués. Le procès devrait durer environ 3 mois et Christiane Desjardins s'est penchée là-dessus et elle pose toutes les questions que nous aurions envie de poser et de savoir. Pourquoi un second procès? Guy Turcotte est accusé des meurtres prémédités de ses deux enfants. On s'en souvient, Olivier, 5 ans, Anne-Sophie, 3 ans. Ce drame survenu le 20 février 2009 à Piémont. Monsieur Turcotte, on s'en souvient aussi, était reconnu comme cardiologue à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme. La mère des enfants et sa femme, Isabelle Gaston, médecin, elle aussi travaillait au même hôpital. Et il y a une ordonnance de non-publication qui a frappé les détails de cette affaire. Il y a eu un premier procès. Au terme duquel M. Turcotte a été déclaré criminellement non responsable. Mais la Cour d'appel a trouvé des erreurs de droit dans les directives du juge au jury. Elle a donc ordonné que M. Turcotte, qui est présentement en liberté, soit jugé de nouveau. Alors, quels seront les acteurs de ce nouveau procès-là? Le juge, d'abord, qui est le juge André Vincent, qui va présider le procès. Il a été nommé juge à la Cour supérieure en mai 2007, après avoir fait notamment une brillante carrière à la Couronne. Et il s'est illustré aussi comme procureur-chef lors de la lutte contre les motards criminels. Du côté de la Couronne, on retrouve comme avocat Maître René Verret, procureur d'expérience de Québec, qui s'est illustré dans plusieurs procès devant jury en 30 ans de carrière. Et puis Maître Maria Albanès, procureur de Laval, qui fera équipe avec Maître Verret. Elle s'est illustrée dans le procès d'Adèle Sorella, ex-conjointe d'un mafioso qui avait été déclaré coupable d'avoir tué leurs deux enfants. À la Défense, les frères Pierre et Guy Poupard, deux avocats de grande expérience. Ils sont aussi... Ils traînent derrière eux une excellente, d'ailleurs ils ne traînent pas, il y a une excellente réputation qui les suit et c'est eux qui assureront de nouveau la défense de Guy Turcotte. Et puis M. Pierre Poupard, il faut le savoir, a été l'un des pionniers de l'aide juridique avant de se tourner vers la pratique privée. Il s'est illustré dans de nombreux procès médiatisés. Les deux frères font partie du même cabinet d'avocats. Alors voilà, aujourd'hui commence le processus de sélection qui pourrait durer quelques jours, parce que qu'est-ce qu'on cherche? Eh bien, on cherche des jurés impartiaux qui n'ont pas d'idées préconçues sur la cause ou qui sont capables de mettre leurs idées préconçues de côté pour juger seulement selon la preuve qui sera présentée. Et ça, j'essayais de me mettre à leur place ce matin, puis je me disais, est-ce que je serais capable de complètement évacuer toutes mes idées préconçues sur un sujet comme celui-ci pour un homme qui a tué ses deux enfants? Imaginez à quel point la sélection doit être extrêmement difficile, parce qu'il va falloir faire confiance à ces gens-là qui ne devraient, en tant que jurés, ne juger que sur les preuves qui sont apportées ou qui ne sont pas apportées. Oui. Voilà. J'arrête là-dessus, moi, mon long bavardage matinal pour laisser toute la place à Kevin Breton qui va vous présenter maintenant le bulletin du handicap sur les ondes de Canal M. Merci d'avoir été là, tout le monde. Merci à Mathieu Tessier, merci à Kevin et merci à toutes les voix de service qui, encore une fois ce matin, sont venues vous apporter toutes sortes de nouvelles, bonnes ou mauvaises, drôles ou pas, mais en tout cas au moins qui sont vos oreilles et vos yeux et qui vous permettent de vous dit « Oh, il n'y a pas de problème, on n'a même plus besoin de lire les journaux, on n'a même plus besoin de s'informer. Pourquoi ? Parce qu'on a Canal M et on a les voies de service. À demain, 10h. Bonne journée. »
Bonjour, mon nom est Daniela Ferrière et vous écoutez Canal M, la radio de Vuzévoix.
Le bulletin du handicap. Bonjour à vous tous, mon nom est Kevin Breton et voici les manchettes en ce lundi 14 septembre 2015. Le regroupement des aveugles et amblyopes du Québec souligne trois gains importants. À Toronto, un restaurant où l'on commande en langue des signes. L'entrée sur le marché du travail pour 32 personnes autistes de Calgary. Crise des migrants, les Européens handicapés dénoncent des politiques indéfendables. Et en sport au paracyclisme, une deuxième médaille d'or pour Nicole Clermont. De récentes représentations du regroupement des aveugles et amblyopes du Québec, le RAC, ont porté leurs fruits. À la suite de problèmes quant à l'utilisation de leur site Internet ou de leurs terminaux, quelques commerces et institutions ont ajusté le tir afin de permettre une meilleure accessibilité aux personnes malvoyantes. C'est le cas des boutiques Gap qui ont finalement procédé à l'installation de terminaux de point de vue qui observent les recommandations du RAC telles qu'énoncées dans sa position, soit la présence de vraies touches et de bips. De plus, l'écran est nettement plus large que ceux des modèles courants, favorisant l'utilisation pour les personnes avec une basse vision. Les commerces IGA ont également pris la décision d'améliorer l'accessibilité de leurs services d'épicerie en ligne, notamment à ce qui a trait aux dates et aux heures de livraison qui étaient incompatibles avec les synthèses vocales. De plus, d'ici la fin de l'année, le responsable de l'Internet chez Sobeys, qui possède la chaîne IGA, a promis d'intégrer la circulaire hebdomadaire en format texte. Finalement, le fournisseur Vidéotron a opéré une mise à jour de son site Web qui ne permettait plus la consultation du guide horaire sur Illico Web et la programmation des émissions. Suite à des démarches du RAC, du Conseil canadien des aveugles de Longueuil et de quelques personnes à titre individuel, il est à nouveau possible d'enregistrer à distance en accédant à l'ancienne version du guide horaire. Un nouveau restaurant, bien nommé Sings, a ouvert ses portes à Toronto récemment. Et sa particularité, non seulement la nourriture y est délicieuse, mais encore plus intéressant, le service se fait en langue des signes. Il s'agit de l'un des tout premiers restaurants au Canada où la majorité des employés sont effectivement sourds. Ce resto-bar, où le bruit rencontre le silence, permet à sa clientèle de découvrir la langue des signes dans une ambiance accueillante. Les clients doivent passer leurs commandes en langue des signes avec l'aide d'un livret illustrant comment signer les articles présents sur le menu. Le propriétaire Anyan Manikumar explique qu'en plus d'être une expérience éducationnelle pour sa clientèle, il s'agit aussi d'un projet visant à offrir davantage d'emplois à la communauté sourde. L'idée de mettre sur pied Sings a vu le jour alors que le propriétaire, à l'époque gérant dans un autre restaurant, s'est aperçu qu'un de ses clients réguliers était sourd. Ne sachant pas comment communiquer avec lui, leurs premiers échanges furent des plus simplistes. Décidé à changer cette situation, Manikumar se fit un devoir d'apprendre la langue des signes américaine, l'ASL. Le client, enchanté de pouvoir être servi en langue des signes, on le comprend, revint avec un groupe d'amis dès le lendemain pour partager son expérience. C'est donc de cet apprentissage qu'est née l'idée d'un endroit où la communauté sourde pourrait y manger et travailler et où les entendants pourraient en apprendre davantage à être sensibilisés à la sourdité. C'est selon un reportage de Second Regard qui a été diffusé sur Radio-Canada hier et le texte est tiré du site francosourd.com. Un nouveau programme d'emploi développé par l'organisme Autisme Calgary a permis à 32 jeunes adultes atteints de ce trouble de développement de trouver un travail. Spectrum Advantage visait à établir une collaboration avec des employeurs afin de créer des stages rémunérés et des postes permanents pourvus par des personnes autistes sans emploi. Le projet pilote comprenait 4 semaines de préparation au marché du travail et 3 mois de stages rémunérés. Résultat, en l'espace de 18 mois, ces stages ont mené à l'embauche de 32 personnes, soit 76 % des participants qui ont participé au programme. Spectrum Advantage change véritablement des vies, a affirmé le directeur général de l'organisme Autisme Calgary, Lyndon Parakin. Avec un taux de chômage de 85 % chez les personnes autistes, l'entrée sur le marché du travail représente tout un défi. Grâce à ce programme, nous leur offrons un monde de possibilités. Les emplois pourvus dans le cadre de Spectrum Advantage sont diversifiés et concordent avec les intérêts des participants, leur éducation, leurs objectifs et leur expérience. À titre d'exemple, vendeurs d'ordinateurs, techniciens en informatique, techniciens du logiciel et designers graphiques ont été des postes pourvus dans le cadre des stages. L'organisme espère que le financement du programme soit accordé afin qu'une nouvelle cohorte puisse y participer à l'hiver 2016. C'était un reportage de Radio-Canada. Dans une lettre adressée aux dirigeants et aux médias, les associations de personnes handicapées des pays de l'Union européenne réunies dans le Forum européen dénoncent les politiques improvisées et inexcusables des pays devant l'arrivée des migrants. Elles condamnent en particulier le sort fait aux enfants et aux personnes handicapées. Face à l'afflux toujours plus grand des migrants aux portes de l'Europe, le Forum européen des personnes handicapées, le FEPH, lance un appel à destination des dirigeants européens. L'organisme non gouvernemental demande à l'Union européenne d'agir rapidement et le plus humainement possible pour résoudre cette crise européenne de migration. Son président, Yanis Varda Kastanis, rappelle l'extrême précarité dans laquelle sont plongés les migrants. Il a lancé aux journalistes et aux représentants gouvernementaux les personnes qui rentrent aujourd'hui en Europe, qui risquent leur vie en mer et qui sont confrontées à l'exploitation et aux trafiquants de tout genre, sont des êtres humains avec des droits. Il appelle notamment les dirigeants à veiller à ce que l'Union européenne adopte une approche cohérente qui reflète pleinement les valeurs européennes que sont les droits de l'homme et la dignité. Le Forum de souligner dans sa lettre « Quand nous déhumanisons les gens et nions leurs droits, nous rendons l'Europe insupportable pour chacun de ses citoyens. » Le FEPH s'inquiète notamment du sort des familles avec enfants, des mineurs voyageant seuls et des personnes handicapées. Depuis que les différents conflits émaillant le Moyen-Orient et l'Afrique ont éclaté, plusieurs centaines de milliers de personnes ont tenté de rejoindre l'Europe. Pour beaucoup d'entre elles, l'entreprise s'avère mortelle. Un migrant meurt toutes les deux heures en tentant d'entrer en Europe, rapporte le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le Forum européen des personnes handicapées est une organisation non gouvernementale rassemblant l'ensemble des associations de personnes handicapées venues de tous les États de l'Union européenne. Elle représente les intérêts de 80 millions de personnes à travers les 27 pays membres. C'est un texte d'Alexis Van Wittenberg pour Vivre FM. Et au sport, en terminant, la paracycliste québécoise Nicole Clermont a remporté une seconde médaille d'or lors du dernier week-end de la Coupe du monde qui avait lieu en Afrique du Sud. En fait, j'ai dit une deuxième médaille d'or, mais c'était une deuxième médaille, vous m'excuserez. Elle a récolté le bronze dimanche dans la catégorie C5 de la course sur roue alors que vendredi, au contre-la-montre, elle était montée sur la deuxième marche du podium. L'athlète de Saint-Denis-de-Brompton a parcouru les 55,4 km en 1h33 minutes et 50 secondes, soit 32 secondes plus rapide que la grande gagnante, la Polonaise Anna Arkosa. La médaille d'argent est revenue à l'Allemande Kirstin Brachtendorf, qui a raté l'or d'à peine 2 secondes. La représentante de l'Afrique du Sud, Estelle van der Merwe, a quant à elle terminé au pied du podium de cette compétition. Du côté du C4 sur route, la Longueloise Marie-Claude Molnar n'a pas été en mesure de repartir avec une médaille de bronze, comme au contre-la-montre présenté le 11 septembre. Ce dimanche, la course ne s'est pas déroulée comme elle l'avait espéré. Elle a complété l'épreuve de 55,4 km en 1h et 44 minutes 48 secondes, terminant ainsi cinquième. Après la course, elle a commenté « Toutes les courses ne peuvent pas bien aller. On m'a dit après la course que le vélo, c'est un peu comme la météo. Parfois, il fait soleil, parfois, il y a des nuages et c'est la pluie. Ben, c'est très bien dit. Donc, c'était tout pour le bulletin du handicap pour d'aujourd'hui. Je vous rappelle que les organismes intéressés peuvent nous faire parvenir leurs nouvelles à canalem@vusevoix.com. Merci beaucoup et à demain.